I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, l'annonce traditionnelle, si vous aimez Année Lumière, soutenez donc l'émission via le site Utip à l'adresse utip.io/Année Lumière. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Année Lumière tous les mois et ça me fait immensément plaisir. Et votre soutien m'aide à produire la meilleure des émissions possibles, donc merci beaucoup. Ce mois-ci, mon invité est journaliste cinéma, série et pop culture, notamment pour Le Point.
Ouais.
Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Comics dans la peau des super-héros et co-réalisateur des documentaires Marvel Univers et Marvel Renaissance. Il est ex-dévoreur des magazines Strange et Starfix et l'homme de sa vie s'appelle John Carpenter.
Oula.
Vous l'avez entendu, mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Gage. Salut Philippe.
Salut Thibaut, merci de cette invitation.
Comment ça va?
Mais super, super. Je vois défiler depuis des mois et des mois la crème de la crème de la cinéphilie dans ton émission. Je rêvais, je fantasmais de faire partie de ce cénacle, de ce cercle, et j'en suis maintenant. Donc je suis très fier et sincèrement, je suis très content.
Oh bah le plaisir est partagé, ça me fait très très plaisir de t'avoir dans l'émission. Alors, on a beaucoup à voir aujourd'hui, Philippe. Ce mois-ci, on s'en retourne au milieu des années 70 pour un millésime rempli de films totems et emblématiques, de fresques monumentales aussi, de films français et d'acteurs sublimes et cabotins qu'on aime bien. Une année encore où la caméra, pour la première fois, elle va danser et l'image avec elle. L'année enfin de la naissance du cinéma d'un des plus grands réalisateurs américains. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1976. Bien sûr reconnu, et vous aurez peut-être dansé d'ailleurs dessus, Dancing Queen du groupe ABBA. On écoutait ça en 1976. Alors pourquoi t'as choisi cette année-là, cette période-là, Philippe, 1976?
J'ai choisi parce que d'abord toutes les années 90 étaient prises par mes prédécesseurs, les années 80 aussi, donc voilà, je tiens à l'ordre parce qu'il faut dire les choses au bout d'un moment. Donc moi je mets les problèmes sur la table, tu vois, et toutes les autres années que je voulais prendre ont été préemptées, et donc voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qui me reste? Rien du tout, la peau sur les os, mon bon
c'est
monsieur.
C'est une année par défaut,
donc 76. Et donc 76, alors c'est une année très intéressante, 76, de par vraiment le côté, on est un an avant Star Wars.
Ouais, déjà ça raconte beaucoup de choses.
Parce que bon, on dit souvent que le blockbuster est né, le blockbuster moderne est né avec la sortie des Dents de la Mer en 75, mais c'est vraiment la Guerre des Étoiles qui, deux ans plus tard, en 77, a fabriqué des générations entières de geeks conscients de ce qu'on appellera plus tard la pop culture. Star Wars a beaucoup plus fait ça que les Dents de la Mer. Et je trouve intéressant de se pencher sur la dernière année, 76, qui a précédé cette espèce d'explosion, de Big Bang de la science-fiction et d'un cinéma d'imaginaire très référentiel que Star Wars a amené. 76, on est comme une sorte de calme avant la tempête. Et y a beaucoup et en même temps, on est dans un... Si on reste dans un contexte anglo-saxon et américain, on est dans une année vraiment de cristallisation de tout le contexte dépressif de l'Amérique post-68. Voilà, on reviendra dessus un peu après. Et c'est très intéressant de parler de cette année où est sorti...
Moult films.
Mais où, c'est la même année où sortent un film comme Rocky et des films comme Les Hommes du Président, Network ou Taxi Driver, qui sont vraiment des films incroyable de noirceur. Et il y a comme on est sur cette année, voilà, qui est vraiment une année un peu charnière. Bon, le terme est un peu galvaudé, mais je pense que à ce titre-là, elle était très intéressante à décortiquer et à choisir.
Effectivement, c'est une année passionnante. Alors 1976, c'est l'année notamment de la mort de Mao Tse-tung et de la fin de la révolution culturelle chinoise débutée 10 ans plus tôt. L'année aussi où Steve Wozniak et Steve Jobs fondent la société Apple, où la sonde Viking 1 se pose sur la planète rouge et réalise le tout premier atterrissage martien de l'histoire. En 1976, toujours, Jimmy Carter est élu président des États-Unis. L'Italie connaît la catastrophe de Seveso. Nadia Comaneci réalise le premier score parfait au JO de Montréal. Le Concorde réalise, lui, son premier vol commercial. Et l'émission 30 millions d'amis débute à la télévision française. Mais 76, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Tu l'as dit, Taxi Driver de Martin Scorsese remporte la Palme d'Or cette année-là. Les Américains applaudissent la nouvelle version de Star is Born avec Barbara Streisand. Ils vont voir les ultimes films de John Wayne et d'Alfred Hitchcock. Ils posent un drôle de regard sur leur pays avec Les Hommes du Président et sur leur télévision avec Network de Sidney Lumet ou frémissent devant le Carrie de Brian De Palma. En Europe, Bernardo Bertolucci livre sa fresque 1900 avec Robert De Niro et Gérard Depardieu. Et les Français, eux, sont près de 6 millions à aller voir le duo De Funès-Coluche dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Et cette année-là, une modeste invention va venir bouleverser ce petit monde du cinéma mondial. Une installation à première vue barbare, composée d'un bras articulé, d'un harnais, qui va pourtant changer tous les regards, ceux des réalisateurs et ceux des spectateurs. Un système qui en 76 va transcender notamment les cultes Marathon Man et Rocky. On est parti pour notre premier thème. Musique de Bill Conti, vous l'aurez reconnu évidemment, musique du film Rocky. Rocky qui est effectivement réalisé par John Avildsen avec Sylvester Stallone, Burgess Meredith, Talia Shire, qui est le plus gros film, le plus gros succès américain cette année-là, 1976, puisque c'est un film qui va réaliser quand même 117 millions de dollars sur le sol américain et 225 millions de dollars dans le monde. Donc c'est un vrai succès et américain, hein, top 1, et planétaire véritablement, puisque cette petite somme, cette coquette somme, c'est quand même, pour donner une idée, c'est un peu comme si un film réalisait 1 milliard de dollars au box-office aujourd'hui. Donc ça vous donne quand même une idée un peu de l'impact d'un film comme Rocky en 76. C'est un film également qui va remporter 3 Oscars, l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Avildsen et du meilleur montage. Et c'est un film qui, non des moindres, lance la carrière de Sylvester Stallone.
Qui ça ?
Et une franchise, voilà, qui ça ? Et une franchise de 8 films encore existante aujourd'hui. Donc c'est vrai que des franchises qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, c'est quand même pas banal. Et donc effectivement, c'était intéressant de le marquer. Tu te souviens de ta première vision de Rocky, toi ? Tu te souviens de ton premier visionnage ?
Tout à fait. C'était lors de la diffusion du film sur FR3. Ça s'appelait FR3 à l'époque. Aujourd'hui, c'est France 3. Et donc c'était encore à l'époque. Donc c'était au début des années 80. Je ne pourrais pas te dire l'année précise, mais je me rappelle très très bien de cette diffusion.
J'étais un bambin.
Oui, et en fait, paradoxalement, un bambin. Oui, bien sûr, j'étais un bambin. il a essayé de me piéger, l'enflure. Paradoxalement, j'avais déjà vu Rocky 3, que j'avais vu au cinéma. Il était sorti au cinéma en France au tout début de l'année 1983. Donc, je connaissais Rocky par l'intermédiaire de Rocky 3, Mr. T. Et j'ai découvert Rocky après. Et paradoxalement, à l'époque, j'ai moins apprécié Rocky, parce que je trouvais le film, bon, j'étais encore jeune, hein,
ouais, tu vois,
je trouvais le film moins rythmé que Rocky 3, moins spectaculaire,
moins clinquant.
Il y avait pas de combat de boxe à part le combat de finale avec Apollo Creed. Et quand t'es un gamin, tu te dis, ah mais pourquoi il y a pas de boxe et tout. Et évidemment, plus tard en grandissant, tu réalises que quand même Rocky est un film évidemment supérieur à Rocky 3. Mais oui, je l'ai vu à la télé lors de sa diffusion sur France 3 à une époque où nous n'avions que 3 chaînes. Pour découvrir des films, c'était avant la création de Canal+, hein, en 1984.
Exactement. Comme quoi, c'est intéressant, effectivement, que ces films-là passent à la télévision, parce que, mine de rien, ça peut lancer des vocations, quoi, que t'aies vu Rocky en 83.
Bah oui, je me suis lancé dans la boxe après.
Juste après, et puis avec la carrière que tout le monde connaît.
Et puis ensuite internationale, bien sûr.
Exactement.
Juste une toute petite parenthèse. En plus de la diffusion sur FR3, je rappelle quand même que pour les pré-ados et les ados de l'époque, de ces années 80, Rocky aussi a été énormément marquant. via son existence en VHS. Et moi, je me rappelle, j'allais au palais, je découvrais la VHS avec notre magnétoscope qu'on avait acheté pour Noël avec mes parents. J'allais au Palace Vidéo, donc du 15e arrondissement, ce qui était un très, très grand vidéoclub. Et les jaquettes des cassettes VHS des Rocky, donc à l'époque c'était Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, nous faisaient, mais enfin il y avait un côté fantasmagorique. C'était les cassettes qui étaient le plus souvent absentes parce que les gens se ruaient dessus. Et vraiment, il y a une mythologie de cette série, de cette saga qui s'est forgée à travers la VHS, vraiment pour des gens de ma génération.
Quoi, c'est assez fou, Rocky. C'est vrai que quand on parle, là, j'ai brassé beaucoup de chiffres au début de manière un peu assommante, j'en suis désolé, mais ça vous donne un peu l'idée comme ça de l'impact d'un film comme Rocky. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que Rocky, de base, c'est quand même un petit film avec pas beaucoup de thunes, avec quelqu'un comme Sylvester Stallone qui n'est pas connu, qui arrive dans un genre qui est le film. Alors on va en parler, est-ce que Rocky est un film de boxe, ça c'est une bonne question, mais qui est un film quand même de sport, qui est un film sur la boxe, donc qui est un genre qui à l'époque n'est pas on est avant Raging Bull, on est avant plein de choses, donc c'est un genre qui n'est pas encore très très populaire, et pourtant ça fonctionne et pourtant ça marche. Comment t'expliquerais toi le succès phénoménal de Rocky en 76?
Stallone, il a très bien répondu à cette question lorsqu'il est, il est venu à Cannes en 2019 pour une masterclass qui était absolument à la fois passionnante et bouleversante, qui était modérée à l'époque par Didier Allouche, si je me rappelle bien.
Oui, tout à fait.
Et donc, il résume très bien le contexte dans lequel Rocky est sorti, et d'après lui, pourquoi le film a rencontré le public. Je le cite, il rappelle donc, on était en 1976, c'était l'année des 200 ans de l'Amérique, et beaucoup de films extrêmement sombres étaient sortis récemment, Network, Taxi Driver, Les Hommes du Président. Moi, je suis arrivé avec un film naïf, j'ai fait Rocky sur un ton optimiste et je crois que les gens étaient prêts pour ce ton différent. J'ai eu de la chance. Donc, en gros, bon, il est un peu modeste parce que, évidemment, que le film a marché aussi parce que, artistiquement, c'est une réussite.
Ça fonctionne, oui.
Ça fonctionne. On va peut-être y revenir un peu après, juste sur les qualités intrinsèques du film. Mais il y a ce côté timing, arriver au bon moment, ce mi-temps des années 70 où peut-être justement le public, tout en continuant à ressasser les nombreuses causes de dépression nationale de l'époque, il y avait quand même une situation économique très difficile pour l'Amérique.
Il y avait le Watergate qui était
Watergate,
pas si lointain.
Toujours les traces, les blessures très vives de la blessure morale du Vietnam.
Tout à fait.
Une insécurité qui était en pleine explosion dans les grandes métropoles américaines. Et donc, je pense qu'il y avait, tout en vivant tout ça et en célébrant en même temps des films comme Taxi Driver et Network ou Les Hommes du Président, le public commençait aussi à avoir envie d'histoires un peu plus positives, de héros un peu plus positifs. Et le message de Rocky, le message central de Rocky, du personnage, c'est qu'il ne faut jamais abandonner les grands combats de sa vie. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un message universel qui a tapé dans le mille des gens.
C'est l'American Dream aussi. C'est le mec qui parle du bas de l'échelle et qui grimpe. Et c'est assez méta dans un sens, parce que du coup, c'est exactement ce qu'a vécu Sylvester Stallone avec,
bien sûr,
avec évidemment sa carrière.
Il s'est approprié complètement le personnage.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est drôle de se dire qu'effectivement, Rocky proposait une sorte de... Et c'est un cinéma qui est optimiste et galvanisant. Et puis avec cette musique complètement entêtante, c'est un hymne. Et avec ce montage, donc c'est vrai que
montage.
Mais c'est vrai que du coup Rocky c'est aussi quelqu'un qui va installer le montage comme cette séquence inamovible parfois dans un sous-genre ou dans un genre de cinéma et qui va en faire du coup un gimmick. Et c'est pas souvent que des films comme ça arrivent et posent des gimmicks qui sont encore en train de perdurer 50 ans après.
Même quand on revoit Rocky aujourd'hui, une sorte de confort, de familiarité, parce que ce film a installé tout un tas de tropes, que ça soit dans l'écriture ou dans la mise en scène ou le montage alterné, et qu'on a vraiment plaisir à retrouver à chaque fois et qui font que ce film ne vieillit pas, quasiment pas. Et puis ce final, quoi. Ouais. Final, désolé, je ne peux pas voir Rocky sans ma petite boîte de Kleenex à la fin parce que c'est complètement déchirant et bouleversant, quoi, tout simplement.
Bien sûr. Est-ce que c'est un faux film de boxe, Rocky? J'en avais parlé un petit peu, mais du coup, tu te rends compte que tous les Rocky sont... chaque Rocky parle pas forcément de la boxe. T'as peut-être le 3 qui parle un peu plus de boxe, mais le premier Rocky, c'est plus une romance, on va dire. C'est un film romantique, puisque t'as la romance entre Rocky et Adrienne, plus qu'un film de boxe, puisque finalement, tu parles pas beaucoup de technique, un petit peu, mais c'est pas le cœur du film. Ouais, c'est peut-être aussi ça qui marchait, puisque la romance, c'est un genre qui marche bien, qui reste populaire.
Oui, bah, l'histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, qui sont deux... deux brisés. J'aime cette expression. C'est des low-life, comme ils disent, comme on dit aux États-Unis. Et évidemment, tout le monde peut s'identifier à eux et leur... c'est le fil de leur de l'évolution de leur relation, la métamorphose aussi d'Adriane au fil du film, qui est extrêmement touchante. Et puis avec aussi toute cette galerie de second rôle qui sont tout autant losers les uns que les autres. Que ce soit Polly, le beau-frère de Rocky, le vieil entraîneur joué par Burgess Meredith, Mickey. Et voilà, tout ça forme une petite galaxie complète, instinctivement, instantanément attachante, qui fait en effet oublier le fait que le contexte du film se déroule dans l'univers de la boxe. C'est pas du tout un film sur la boxe. De toute façon, Stallone l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Même si c'est un film qui est énormément apprécié dans la communauté des boxeurs. Et même si... la légende dit que l'idée de Rocky lui serait venue après avoir vu un match de championnat entre Mohamed Ali et son outsider Chuck Webner en 75, qui a tenu la distance de façon très inattendue face à Mohamed Ali, qui était, je crois, à l'époque le champion du monde.
Bien sûr. Voilà. Et ce qui est assez drôle, on va dire, c'est que du coup, la même année, donc, on a Rocky, premier du box-office américain, et que la même année, un peu en miroir, on va dire, on parlait du coup de ce que ça racontait, on va dire, sur le cinéma américain, mais un peu en miroir, t'as un autre film qui sort, on l'a évoqué juste avant, qui est Marathon Man, de John Schlesinger, avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Rod Steiger, et qui lui, du coup, est un film qui est du coup complètement différent, qui raconte l'histoire de Babe, qui est un étudiant en histoire, qui lui s'entraîne régulièrement au Central Park pour le marathon de New York, donc on le voit courir, Dustin Hoffman, dans le marathon de New York, autour du grand réservoir
du
Central Park, voilà, exactement, mais on le voit courir, c'est aussi un film où on voit courir quelqu'un, on s'entraîner quelqu'un, et son frère, le frère de Babe, donc son frère Doc, il est membre, Roy Steiger, il est membre d'une organisation gouvernementale secrète. Et il se retrouve, on va dire, assassiné sous ses yeux. Et là, va se développer, dévoiler une sorte d'intrigue autour de ça. Et il va se retrouver, ce pauvre étudiant en histoire, au milieu d'une conspiration, en tout cas d'une histoire particulière. Alors, c'est un film, Marathon Man, adapté d'un roman homonyme de William Goldman, publié une année ou deux avant. C'est un film qui va marchouiller au box-office, c'est-à-dire qu'il va faire 21 millions de dollars, il va être top 10, top 15, il va quand même marquer les esprits, puisque Laurence Olivier aura son Golden Globe, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai voulu en parler aussi, parce que, bon, on va en parler plus tard, c'est deux films qui partagent une technologie, un système particulier, mais c'est aussi deux films, je trouve, qui racontent beaucoup des années 70 et de l'Amérique de cela, parce que Marathon Man, c'est un film qui est donc, c'est un thriller, un peu, on va dire, dans la veine, voilà, thriller politique, thriller complotiste, etc., sur lequel plane les spectres de la Seconde Guerre mondiale, les spectres du nazisme. Et donc, d'un côté, on va avoir Rocky qui va être le rêve américain, et de l'autre côté, tu as Marathon Man qui va parler peut-être plus d'un complot américain, ou en tout cas d'une histoire de conspiration ou secrète, mystérieuse à l'Amérique. Et du coup, je voulais te poser la question, Rocky, Marathon Man, qu'est-ce que ces films nous racontent des années 70 américaines et peut-être du cinéma des années 70 américaines?
On est dans un moment de... pas une schizophrénie, mais c'est... Non, je veux dire, il y a deux... tendance en lutte, l'une peut-être contre l'autre, deux formes de cinéma, de ton, deux envies de cinéma qui un peu s'opposent. Avec, du côté de Stallone, une envie plutôt de raconter une histoire de réussite, une histoire optimiste, positive, parce que Stallone lui-même venait un peu de la crasse et de la galère. On a cette envie de cinéma-là, d'histoire un peu plus optimiste. Et puis de l'autre, on a ce qu'incarne Marathon Man, entre autres films, mais en effet, un thriller extrêmement sombre avec une ambiance délétère, très glauque. Et Marathon Man, c'est vraiment un thriller conspirationniste, effectivement, dont l'Amérique était friande dans la première moitié des années 70 et qui est un genre qu'a très bien illustré un réalisateur comme Alan Pakula.
Avec Les Hommes du Président, notamment.
Exactement.
Il faut expliquer que, du coup, dans les années 70, effectivement, aux États-Unis, ce genre-là, on peut parler des Trois Jours du Condor, etc. etc.
Sorti en 75. Ouais.
C'est pourquoi ce type de cinéma-là émerge, un cinéma politique, on va dire, de remise en cause de l'autorité,
des
institutions, qui traite du coup du complot, de la conspiration et tout ça. Pourquoi ? Parce que, effectivement, en 72, t'as le Watergate, où ben, du coup Nixon se retrouve directement mis en cause dans, ben, du coup, encore une fois, une conspiration à la plus haute tête de l'État.
Et il démissionne.
Donc là, c'est un traumatisme américain. Et forcément, le cinéma récupère ce thème.
Mais il les enchaîne, les traumatismes, les Américains, à l'époque. Depuis Kennedy, depuis l'assassinat de Kennedy, l'Amérique les enchaîne.
Ouais, Sharon Tate, Watergate, le Vietnam, etc.
Robert Kennedy, la mort les assassinats de Luther King, Malcolm X. Enfin, c'est quand même la décennie 60 et l'aube des années 70, c'est quand même des années extrêmement extrêmement sombre pour l'Amérique, avec toutes ces morts publiques violentes, parfois qui se commettent en direct devant les caméras, et puis le Vietnam, et puis et donc en effet ce coup de grâce qui est la démission de Richard Nixon suite au scandale du Watergate. Donc bien sûr, c'est toute cette génération de films qui arrive dans la deuxième moitié du début des années 70, elle est parfaitement logique.
À cause d'un assassinat, il y a aussi un coup
de Bacula. Exactement. Oui, on est dans ce... Mais Rocky annonce, justement, c'est vrai.
Une renaissance.
Oui, Rocky est un indice de ce que va ensuite déclencher la Guerre des Étoiles un an plus tard.
Ah, le retour de l'imaginaire, le retour de l'espoir, le retour de...
Oui, voilà. Alors, bon, il y a vraiment des débats d'experts en cinéma sur cette théorie-là. C'est une thèse, qu'a beaucoup défendu Peter Biskind dans son ouvrage Le Nouvel Hollywood. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Évidemment qu'il y a toujours des contre-exemples.
Ah, c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même un schéma d'ensemble qui tend à montrer ça, qu'en effet, il y a eu cette queue de comète très dépressive de films entre la fin des années 60 et le milieu des années 70. Et 76, il y a eu une sorte de bascule avec, en effet, on peut parler d'un duel quelque part entre Rocky, un film comme Rocky, et ce qu'incarne Rocky, et ce qu'incarne Marathon Man.
Et Les Hommes du Président, finalement, on en a parlé.
Qui est sorti la même année.
Qui est sorti la même année, 76 également, qui est numéro 5 du box-office, qui réalise quand même 30 millions
avec
de dollars.
Avec aussi Dustin Hoffman.
Avec Dustin Hoffman également, Robert Redford. Donc c'est un film, ces films-là, c'est aussi des films qui fonctionnent, qui ont leur public, que les gens vont voir en salle. Donc on ne parle pas de Rocky qui marche et le reste ne marche pas. Non, tous ces films-là, films qui ont un écho, qui trouvent un écho dans le public, donc qui sont populaires, mine de rien.
Absolument. Et la décennie 70, c'est une décennie aussi où, dans beaucoup de films américains, le héros meurt à la fin.
Ouais.
C'est quelque chose qui arrivera beaucoup moins ou presque plus dans les années 80. Mais alors évidemment, il y aura des gens pour me trouver des contre-exemples, mais là vraiment, on parle de tendance générale. Ouais. Il y a beaucoup de films de cette décennie-là, à la fin desquels le héros périt. Et ça aussi, c'est aussi révélateur d'abord d'une certaine liberté artistique temporaire qui va être laissée à certains réalisateurs dans le cadre des studios. Et puis ensuite, révélateur d'un état mental collectif assez sombre de l'Amérique de cette époque.
Et donc, Marathon Man et Rocky, en plus effectivement d'être peut-être les deux faces d'une même pièce qui serait l'Amérique, sont deux films qui vont utiliser pour la première fois une nouvelle technologie qui s'appelle effectivement le Steadicam. Alors le Steadicam, ça vous évoque peut-être quelque chose, cher auditeur, puisque c'est ce système de stabilisation, de prise de vue, composé d'un harnais, d'un bras articulé, d'un système de stabilisation active, d'un dispositif de visée en dehors de la caméra. Bref, c'est un espèce de grand système, de grande installation qui va permettre au cadreur de stabiliser extrêmement bien l'image et de pouvoir faire notamment des mouvements très rapides, de pouvoir courir, de pouvoir marcher sans... on va dire l'instabilité de ce qu'on appelait la caméra à l'épaule, sans le shaky cam, sans le côté un peu tremblement. Là, il va pouvoir courir, et c'est vrai que qu'on voit dans Rocky court comme un beau diable, il monte les marches de ce fameux escalier de Philadelphie, et on le suit sans à-coups, tout en souplesse, tout en douceur, et ça, c'est grâce au Steadicam. Alors évidemment, c'est un système qui va faciliter complètement la machinerie, la fabrication de tournage, hein, puisque c'est un système qui va remplacer les dolly, les rails, les grues, enfin plein de choses, et notamment en tout cas c'est une alternative à tout ça.
Alternative.
C'est un système qui a été créé notamment par l'américain Garrett Brown en 72, qui d'abord l'a utilisé dans les pubs et qui du coup l'a utilisé pour la première fois au cinéma en 76 avec Rocky, on l'a dit, Marathon Man, on l'a dit, également un troisième film qui s'appelle En route pour la gloire de Al Ashby, où du coup il peut se permettre un long plan séquence travers dans un camp de prisonniers, et du coup tout ça bien sûr dans une élégance et une souplesse particulière. Le Steadicam, alors qu'est-ce que le Steadicam va apporter au cinéma au-delà, parce que là j'ai cité beaucoup de choses, effectivement c'est un formidable outil physique, ça permet de faire plein de choses sans perturber l'œil, etc., etc. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que le Steadicam va apporter au cinéma, Philippe ? Qu'est-ce qui va changer dans la grammaire cinématographique ?
Le premier constat évident, c'est que contrairement à la caméra portée à l'épaule, qui donc, comme tu l'as dit, par définition, mais c'était aussi recherché.
French Connection, tu voyais, la caméra à l'épaule, voilà. Où tu suivais comme ça, voilà. Jim Hackman, etc. C'était énergique.
Exactement, qui donne une fibre documentaire au long métrage. Ce que le Steadicam apporte, c'est une véritable dissociation entre le corps de l'opérateur et l'image qu'il filme. Ah. C'est un paradoxe parce que l'opérateur qui porte la caméra, donc via ce système de steadicam qui est rattaché à lui par une sorte de veste harnais qui elle-même est reliée à ce bras vertical au bout duquel est posée la caméra et puis qui est donc équilibrée par des contrepoids. Donc via ce système, l'opérateur en fait arrive à maintenir une frontière, une paroi étanche entre son corps et les défauts de son corps et les tremblements et les soubresauts de la marche et l'image cinéma et le mouvement au cinéma. Ce que ça change, c'est qu'on à la fois automatiquement dans une plus grande élégance visuelle, un élargissement du champ du possible. L'exemple parfait, c'est le Shining de Kubrick, où le Steadicam est privilégié pour nous plonger dans l'ambiance extrêmement anxiogène des couloirs de l'hôtel Overlook. Cette dissociation entre le corps de l'opérateur et la caméra permise par le Steadicam, c'est quelque chose de presque métaphysique en fait.
Ça crée un point de vue complètement omniscient, un peu flottant comme ça. C'est plus le réalisateur ou le cadreur qui est derrière la caméra, c'est Dieu peut-être. Je sais pas.
Mais non, mais justement, ça, c'est quelque chose qui implémente encore plus la dimension, une dimension magique du cinéma, de l'image cinéma. Une dimension. Alors, il y a à la fois un certain réalisme parce que ça permet de réaliser en continuité des plans séquences qui immerge dans l'action. Exemple, le footing de Rocky, où vraiment tu es dans la rue avec lui et on voit les entrées de champ et les sorties de champ des commerces de part et d'autre de l'image, des gens qui l'acclament, etc. Donc on est quand même quelque part immergé dans le truc. Et en même temps, à côté de cette forme réaliste qu'autorise le Steadicam grâce à au plan séquence prolongé, il y a un côté surélégant, un peu surnaturel, qui est lié au fait que voilà, le caméraman, l'opérateur, n'est plus soumis au mouvement de son propre corps. Presque omnipotent, c'est comme un super pouvoir.
Et c'est vrai que tu l'as dit, mais c'est un système, le Steadicam, qui va permettre quand même, alors ça existait bien sûr avant, mais qui va permettre quand même de faire plus facilement et qui va donner un outil en plus pour faire notamment l'émergence de plus en plus de plans séquences. C'est-à-dire que le plan séquence avant c'était un
oui ça existait un gimmick, déjà avant,
ça existait avant mais c'était un gimmick qui était compliqué à mettre en place puisque qui dit plan séquence dit installation technique etc et là ce Steadicam, ce système extrêmement souple, extrêmement adapté etc va donner on peut faire ça maintenant. Et c'est vrai que par exemple quelqu'un comme Terrence Malick, il doit peut-être un bout de sa carrière au Steadicam.
Il y a lui, il y a De Palma évidemment qui a utilisé le Steadicam pour des scènes le Steadicam est instinctivement et irrémédiablement désormais associé à des moments de cinéma absolument inoubliables.
Raging Bull et Goodfellas, l'entrée dans le bar de Scorsese, le Steadicam est quelque chose qui est, je pense, aujourd'hui dans au moins un plan du Steadicam dans 80% des productions.
Oh bah j'ai pas fait
plus. Non mais moi non plus la grande majorité des productions t'as au moins un plan Steadicam.
Bien sûr. Alors les spécialistes disent que le Steadicam a aussi ses inconvénients. Son premier inconvénient, c'est son poids.
C'est
un très gros système. Il faut vraiment être assez costaud.
Il faut des cadreurs spécialisés d'ailleurs.
Oui,
Steadicam.
Exactement.
Tous les cadreurs ne peuvent pas manipuler.
Et tu peux pas. Alors moi, après là pareil. Je suis pas un technicien du cinéma, donc peut-être que ces dernières années, des modèles un peu modernisés, plus légers. Mais en tout cas, traditionnellement, on dit que le Steadicam est quand même un harnachement assez lourd et qu'on peut pas faire de plan séquence trop long non plus parce que t'es porté par tes jambes. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, surtout si tu dois faire, par exemple, des plans séquences sur le sable, tu peux pas faire ça trop longtemps. Quoi. Et on parlait tout à l'heure de Scorsese, de Palma, Paul Thomas Anderson, qui sont des cinéastes qui ont énormément profité des potentialités du Steadicam. N'oublions pas non plus James Cameron. Oui. Dans Terminator 2, Abyss, True Lies, il y a des mouvements de Steadicam affolant. On n'oublie pas Catherine Bigelow non plus, avec des scènes de poursuite qui ont été filmées au Steadicam, et puis dans les films d'Oliver Stone également. Pense à JFK ou L'Enfer du Dimanche. Et tu parlais tout à l'heure, Thibaut, d'opérateurs spécialistes du Steadicam. L'un des grands opérateurs spécialistes du Steadicam, c'est un gars qui s'appelle Jim Muro, qui était par ailleurs réalisateur de Street Trash, qui était un petit film d'horreur très très culte qui était sorti en 87, qui était entièrement filmé en Steadicam. ou quasi entièrement. Et Jim Murrow a abandonné la réalisation pour se spécialiser dans le métier de chef opérateur et opérateur caméra. Et il a donc bossé sur énormément de films de Cameron et de Catherine Bigelow en réalisant vraiment des plans séquences au Steadicam absolument époustouflants. Pardon, je parle beaucoup.
Bah, pas du tout. C'était un plaisir de t'écouter, Philippe.
Et merci, bonsoir.
Ce qui est drôle, c'est que le Steadicam est un système qui va même obtenir un Oscar en 78-79. Un Oscar technique, bien sûr, mais en tout cas un Oscar pour 2 ans après à peine son arrivée dans le milieu, dans ses films. Déjà, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte de l'importance du Steadicam et on lui a décerné un Oscar technique à Garrett Brown, donc à cet inventeur. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, je vous invite également, moi, une petite suggestion YouTube, aller sur YouTube et de regarder les tests caméras de Garrett Brown. Du coup, il avait conçu son invention, il voulait tester, et du coup, il filmait sa copine dans la rue avec son invention du Steadicam, et il envoyait la cassette au studio en disant « j'ai cette technique-là, machin. » Et dans l'un des tests qu'il envoyait au studio, il filme sa copine, devine, en train de courir et en train de gravir les escaliers de l'hôtel de ville de Philadelphie, exactement comme dans Rocky. Excellent. Et donc, c'est marrant de se dire qu'un plan tourné par Garrett Brown juste pour vendre son invention a directement inspiré une scène emblématique et culte d'un film comme Rocky. Donc voilà, la scène des escaliers de Rocky vient directement de Garrett Brown et du Steadicam. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors rapidement, on a parlé de qu'est-ce que le Steadicam avait apporté au cinéma. Moi, j'ai un peu envie de retourner la question. Qu'est-ce que le Steadicam a tué dans le cinéma ou à enlever du cinéma?
Oh la vache, la question piège.
Non, mais tu n'es pas obligé de répondre. J'avais posé la même question à Cronan où tu avais l'arrivée du son qui avait apporté plein de choses, mais du coup, au passage, l'arrivée du son avait tué toute une génération de gens plus visuels.
Ah, écoute, c'est une très bonne question. Peut-être que concrètement parlant, le développement du Steadicam a été un drame pour certains types d'opérateurs qui se sont pas adaptés. Franchement, là, tu me poses une colle.
Oh, je suis comme ça, moi, je pose des pièges à loups partout.
Ouais,
ah
ça
mon
fait,
Dieu,
ça fait ma jambe. Il faut dire que le Steadicam a aussi été énormément récupéré en télé. Oui. Urgence a été vraiment la série au début, milieu des années 90 qui a popularisé, je pense, et systématisé l'usage du Steadicam pour ces fameux plans séquences de walk and talk, comme disent les spécialistes. Ouais. Mais oui, les séries télé se sont vraiment cinématographisées à leur tour. Au fil des années 90 et après, tout s'est accéléré dans les années 2000 et après. Mais c'est vraiment dans les années 90 que les meilleures séries de l'époque se sont vraiment cinématographisées avec la généralisation du Steadicam. Je précise que c'était pas forcément la panacée et que d'autres séries, une très grande série comme Homicide par exemple, elle au contraire a privilégié l'usage de la caméra portée à l'épaule, tout comme New York District par exemple, pour privilégier au contraire une esthétique documentaire. Ouais. Et c'est peut-être ça. Peut-être pour répondre à ta question, c'est ça qu'on perd avec le Steadicam. C'est l'impression d'une image prise sur le vif, très brute, très énergique, comme on a dans les films de Friedkin, par exemple.
Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1976. Vous êtes toujours en train d'écouter Années Lumière. On est toujours avec Philippe Gedge et on est parti pour notre second thème de l'émission.
En cette matinée grisante, où de la position privilégiée que j'occupais, j'entendais le chant des oiseaux précéder les bruits de la ville, je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité pour en arriver là où mon imagination, pourtant très ambitieuse, n'aurait jamais su me porter seule. Je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
Voix, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est celle de Jean Rochefort dans l'introduction, dans les premières minutes du film Un éléphant, ça trompe énormément, de Yves Robert. Alors, Jean Rochefort en 1976, c'est quelqu'un qu'on peut retrouver donc dans Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert, dans Calmos de Bertrand Blier et dans Les WC étaient fermés de l'intérieur, le premier film de Patrice Lecomte où il est à l'écran avec Coluche. Et c'est aussi une année importante, et c'est pour ça qu'on voulait en parler avec Philippe, puisque c'est l'année un peu de la consécration, puisque c'est l'année où il remporte son premier César, le César du meilleur acteur de son rôle, dans « Que la fête commence » de Bertrand Tavernier. Alors Jean Rochefort, c'est quelqu'un, vous vous en souvenez, qui est mort il y a peu de temps, en 2017, à 87 ans. C'est un acteur qu'on a vu dans plus de 160 rôles, dans plus de 60 ans de carrière. Donc on peut citer comme ça un peu à l'appel Le Grand Blond avec une chaussure noire, L'Horloger de Saint-Paul, Le Crabe Tambour, Tandem, Le Mari de la Coiffeuse, Ridicule, des longues collaborations avec Yves Robert et Patrice Lecomte. Voilà, il a tourné avec Michel Audiard, Claude Chabrol, Louise Buñuel, Robert Altman. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on a dit pas grand-chose finalement. Il incarnait quoi, Jean Rochefort, pour toi, Philippe ?
Bien sûr, que comme tous les, je vais dire, tous les Français, j'aimais beaucoup cet acteur. Il faisait partie du paysage. Il faisait partie des meubles. Moi, Un éléphant, ça trompe énormément. Et c'est vraiment un des tout premiers films que j'ai vu en télé quand j'étais gamin. Quand on est enfant, Un éléphant, ça trompe énormément. C'est un film vraiment super parce qu'il y a beaucoup de...
C'est un des tout premiers films que tu as vu quand tu étais gamin.
Ah oui, tout à fait. Oui. En télé, bien sûr. Mais c'est un film qui est quand même très, très souvent rediffusé en télévision. Ouais. Un éléphant, ça trompe énormément. Et donc, c'est un film qui fonctionne beaucoup plus que son successeur, que j'adore, évidemment, Nous irons tous au paradis. C'est un film qui fonctionne beaucoup plus sur le burlesque, sur le slapstick. Et Jean Rochefort, eh ben pour les gamins, il était vraiment le clown triste presque et l'Auguste à la fois, en fait, finalement. Mmh. Et on s'identifiait, même enfant, instinctivement à lui pour ce côté un peu loser, un peu honteux, gaffeur et en même temps emprunté.
Et en même temps élégant. Il y a une certaine élégance, évidemment. Avec cette moustache emblématique.
Non, mais évidemment, il a créé le personnage d'Étienne d'Orsay et la façon dont Rochefort l'a incarné, ça a immédiatement créé un style de personnage qui a essaimé jusqu'à sur Twitter où il y a un compte Étienne d'Orsay qui reprend
le
son
personnage d'un éléphant. Parce que l'un éléphant, ça se trompait énormément. Pour les gens qui l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'une bande de copains entre guillemets
quadragénaires
qui partagent des histoires ou de tromperies d'adultère avec
c'est ça il y a pas de
il y, y, y a pas, pas tellement de, d'histoires
c'est ça non il y a pas de scénario
c'est
vraiment
un film de copains, quoi.
C'est un film de copains, c'est vraiment pour moi c'est l'alpha et l'oméga du film de copains. Voilà, on le compare souvent à Vincent, François, Paul et les autres, ce qui n'est pas illogique puisque Claude Sauté et Yves Robert et Jean-Loup Dabadie qui était scénariste de L'un éléphant ça trompe énormément, mais aussi des choses de la vie. Si je ne dis pas de bêtises.
Il me semble, effectivement.
Tous ces gens-là se connaissaient, se fréquentaient. C'était vraiment une bande de potes.
C'est vrai, parce que moi, j'ai découvert Un éléphant, ça tombait énormément. Je ne l'avais jamais vu. J'ai découvert aussi Calmos, mais on va en reparler aussi.
Ouh là là, Calmos.
Mais il a une petite vibe.
Plus Peter... possible de faire Calmos.
Ah non, non, pas du tout. Il avait une petite vibe. Peter Sellers, un peu, je trouve, Jean Rochefort.
Ah oui, complètement. Y compris dans la forme du visage.
Même dans la forme du visage. Un peu ce côté, tout le temps en train de s'excuser.
C'est une très bonne comparaison.
Mais voilà, peut-être que Jean Rochefort est le Peter Sellers français.
Ouais, non,
mais
il a un impair dans le.
Il a un impair. Et puis il y a cette scène, il est toujours, il s'excuse toujours un peu d'être là. Il y a une scène où Annie Dupéré lui dit qu'elle a envie de le voir sans vêtements. Et lui, il est là, mais sans vêtements nus, vous voulez dire ?
Ouais. Et du coup, nus, vous voulez dire.
Et du coup, il y a vraiment ce côté de un peu à la ramasse, mais extrêmement attendrissant. Et Jean Rochefort, c'est vrai qu'il a fait plein de rôles très différents, on va en parler, hein, mais il a beaucoup de facettes. C'est un acteur polymorphe et extrêmement passionnant. Mais c'est vrai qu'il a ce créneau de ce personnage extrêmement sympathique, un peu où on pouvait s'identifier, quoi.
Ouais, et à la fin des années 70, Un éléphant, ça trompe énormément, était souvent diffusé en alternance. Il y avait un autre film, beaucoup moins réussi, qui est Courage Fuyons, dans lequel Rochefort a également joué et où il joue un rôle de pleutre qui pourrait être une sorte de cousin éloigné d'Étienne d'Orsay. Et voilà, moi je sais qu'enfant j'aimais beaucoup ces deux films-là et j'aimais beaucoup Jean Rochefort dans ces films-là parce qu'il me faisait rire. On s'identifiait à lui parce que voilà, nous-mêmes on est tous à des degrés divers un peu lâches dans beaucoup, plein de circonstances. Pas chercher midi à 14h, c'est une personnalité à laquelle on s'attachait instinctivement.
Il y avait un attachement instinctif, tu l'as dit.
Alors après, il a su, hein, évidemment.
Oui, il y a des nuances. Il a joué avec.
Il a incarné des personnages beaucoup plus nuancés, voire inquiétants dans d'autres films.
Un grand homme de théâtre avant.
Exactement.
Cette période-là et même après, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que tu l'as dit, Jean Rochefort, il est aussi inscrit dans une génération, de la génération de ce fameux génération du théâtre des années 50, c'est-à-dire ce qu'on appelait la bande du conservatoire, c'est-à-dire une bande où tu avais Belmondo, Claude Rich, Agnès Girardot, Marielle, Philippe Noiret, Françoise Fabian, Guy Bedos, etc., etc. Et du coup, dans ce groupe-là, donc on se souvient effectivement de Jean Rochefort avec ce trio atypique et emblématique Noiret, Marielle, Rochefort, hein, qu'on a vu dans Que la fête commence, qu'on a vu dans Les Grands Ducs, qu'on a vu dans des films comme ça. Qui était ce trio de copains, finalement, dans cette génération de grands noms. Qu'est-ce que Jean Rochefort avait de... On en a un peu parlé, mais qu'est-ce que Jean Rochefort avait de plus ou de différent ou justement, qu'est-ce qu'il avait pas par rapport à toutes ces personnes.
Alors, si on compare avec Bébel ou Philippe Noiret ou Marielle, alors avec Marielle, c'est vraiment frappant quand on voit Que la fête commence de Tavernier ou Calmos de Blier.
Oui, où Marielle et Rochefort sont côte à côte tout le film. Et voilà, du coup, on voit bien la différence.
On voit la différence de registre. Et c'est vrai que Marielle, il est dans l'exubérance, dans le côté paillard, ne serait-ce que le volume vocal, le volume sonore de Marielle quand il parle. Évidemment, c'est complètement différent. Y a un côté vraiment rabelaisien chez Marielle qui est, bon, pas qui écrase, mais qui jette un peu une ombre sur Rochefort, qui est évidemment qui est dans un jeu plus discret, presque plus voluptueux.
Tu parles de Calmos, on va peut-être effectivement le cerner pour les auditeurs, on va en parler. Calmos. Alors Calmos, film de Bertrand Blier, où du coup il y a ce duo Jean Rochefort-Marielle, qui se retrouvent à s'échapper, on va dire, de la vie, de la ville, puisqu'ils ont envie de se retrouver seuls, entre mecs, pour fuir la société, et notamment pour fuir les femmes, qui les étouffent d'une certaine manière. Et c'est un film que moi, j'ai découvert, Calmos, pour préparer l'émission, et sans savoir quoi que ce soit sur le film.
Ah,
et j'ai lancé le film.
T'as dû tomber de ta chaise.
Et au bout de 5 minutes de film, on a quand même une scène où Jean-Pierre Marielle est gynécologue et il mange une tartine de terrine, avec une femme, les jambes écartées devant lui.
Ah oui.
Et il est en train de manger une tartine de terrine avec une femme nue qui l'attend, entre guillemets, pour être sculptée.
Voilà, c'est sa patiente, elle a les pieds dans les écarteurs. Dans
exactement, le film se lance comme ça.
Et la caméra après, plein pot sur, sur le vagin de la patiente. Hein, c'est très, très impressionnant.
Et c'est un film qui ne s'arrête pas et qui part dans le gonzo pur et qui, du coup, culmine dans une scène finale un peu sorti de nulle part.
On dirait presque un film de Jodorowsky, presque, tu vois, dans le côté.
Mais c'est un film, moi, au début, j'étais là, mais j'ai mis du temps à comprendre que. Donc, je me suis dit, mais c'est un film extrêmement misogyne, parce qu'au début, c'est quand même deux acteurs, deux personnages qui sont là en train de te dire, mais les femmes, elles nous saoulent, les femmes, elles machin. Donc, c'est que des hommes qui, entre guillemets, disent entre eux, finalement, on n'est pas bien sans elles, elles machin. Et en fait, tu mets du temps à comprendre qu'en fait il est en train de faire une fable, il est en train de faire un conte et qu'en fait la société dans laquelle se passe l'histoire n'est pas un vrai monde, n'existe pas vraiment et que du coup, parce qu'à la fin ça part dans des...
Il y a une armée de femmes... C'est un post-apo
une armée de femmes qui va à la poursuite avec des chars, à la poursuite de Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, donc tu mets du temps à comprendre qu'en fait il part en délire et que c'est pas
Il se moque autant des hommes que des femmes.
Voilà, exactement, et qu'au final c'est plus subtil que ça, mais ça reste un film compliqué à voir en 2021.
Oui, mais même à l'époque, quand il est sorti. Il a déclenché quand même pas mal de controverses. Une partie de la presse lui a reproché d'être d'abord un film assez pornographique, hein, parce qu'il y a quand même une ou deux scènes très explicites. Ah, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui sont dans le film sont assez caliente, quoi. Et on lui a reproché évidemment sa misogynie, sa grande vulgarité vis-à-vis des femmes.
Blier regrette un peu. Rochefort regrette aussi
Le film, il n'est pas... C'est pas une réussite. Hein,
non, ça reste un film.
Il est très marquant. Il faut le voir, ce film. Il est très intéressant dans ce qu'il dit déjà de cette crise de nerfs du mal occidental déjà dans les années 70. Oui, mais exactement. Donc, il faut le voir. C'est intéressant. Et puis, il y a des scènes très drôles. Et puis, il y a Marielle qui a pleuré de rire. Et c'est intéressant de voir aussi, même pour Rochefort, puisqu'on était sur Jean Rochefort. Ouais. Jean Rochefort, il incarne très bien aussi, parce qu'il peut être tout autant dans le registre feutré, calme, etc. Et puis aussi, il incarne très très bien la cocotte minute qui pète Jean Rochefort. Et il y a cette scène dans la rue, quoi, où il s'en prend aussi à une femme qui demande sa direction en pleine rue à Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle l'envoie balader. Puis,
il demande du soutien à Rochefort. Voilà, Rochefort, vous voyez pas que cet homme il est à bout.
Exactement. Et donc, et c'est intéressant ce film aussi pour cette facette-là qui monte de Rochefort. Mais oui. Si un film comme ça sortait aujourd'hui, il serait pas financé parce que les différents degrés de lecture du film et dans l'humour sont irrecevables aujourd'hui. Enfin, personne n'accepterait de le faire. Et à l'époque, je pense vraiment que Bertrand Blier se moquait autant d'une certaine masculinité exacerbée. Il voulait se moquer un petit peu peut-être des dérives d'un certain féminisme de l'époque. Je pense que c'est un film qui renvoie les deux sexes dos à dos.
Effectivement, ça picote un peu forcément.
Ah oui, ça picote. Hein. Oulala,
ça picote très, très fort.
Mais la dernière scène est aussi complètement
intéressante. Oui, c'était une scène, on ne va pas la raconter, mais jeter un œil dessus, ça reste effectivement intéressant. Mais préparez-vous parce que c'est.
Oui, et puis il faut savoir prendre sa
dite. Une sacrée chevauchée, on va dire. C'est un gros morceau à digérer.
C'était
Wild Ride.
Voilà, mais il faut savoir prendre. prendre, il faut voir ce film avec la juste distance.
Bien voilà. Sûr. On parlait effectivement de Jean Rochefort, on parlait de ses différences, comme ça, qu'est-ce qu'il incarnait, on parlait de cette différence avec les autres acteurs de sa génération, Marielle, Noiret, il était dans ce créneau, on va dire, un peu plus mesuré, un peu plus de l'autodérision d'ailleurs, hein, parce que Marielle, tu le verrais peut-être moins sur ce créneau-là, et c'est vrai que Jean Rochefort, on était beaucoup dans le côté un peu pato, un peu autodérision, un peu décalage, ouais. un peu le discret, quoi, finalement.
Un peu
le panache.
C'est une bonne comparaison avec
Peter Sellers.
Tout à l'heure avec Peter Sellers, ouais.
Est-ce que tu dirais que 76, ou l'année, ou la période, cette année 75, 76, 77, et après, parce qu'effectivement, on a vu que 76, c'était une grande année pour Jean Rochefort, on voit qu'il gagne un César. L'année suivante, il sort dans le Crabe Tambour, il va également gagner un César avec le Crabe Tambour, donc il se fait comme ça 3-4 années assez importantes, assez emblématiques. Tu dirais que c'est la période la plus importante de sa carrière à Jean Rochefort, ou est-ce qu'il y a d'autres périodes qui sont plus essentielles pour toi?
Jean Rochefort, je l'identifie vraiment à trois très gros moments dans sa carrière, qui sont cette année 76, en effet, où je crois que Un éléphant, ça trompe énormément est le premier gros succès populaire lequel il joue un premier rôle.
C'est 3 millions de spectateurs, donc ça c'est important. Suite fera 2 millions et quelques de spectateurs, donc c'est des gros succès populaires.
C'est
quand
vrai
même.
Que c'est deux films qu'on ne peut pas séparer, quoi. C'est un diptyque vraiment fusionnel, ces deux films. Ensuite, j'ai l'impression qu'au milieu des années 80, grâce à Lecomte et Tandem, il y a eu à nouveau Tandem a vraiment déclenché un revival Rochefort qui ensuite a enchaîné avec pas mal de films.
Marie la coiffeuse, Ridicule.
Voilà, exactement, etc. Jusqu'à l'aube des années 90. Non, mais parce que j'allais séparer la période Ridicule de la période Tandem, mais c'est vrai que finalement c'est un même tunnel.
C'est 10 ans.
Et le Marie de la coiffeuse aussi, c'est un film qui a été très médiatisé quand il est sorti. C'est 1990 ou 91, je ne me rappelle plus. Les critiques ont été très, très élogieux quand le film est sorti sur la performance de Rochefort, qui incarne un coiffeur un peu perché, quoi, un peu barré, un peu fétichiste de sa profession, et qui va avoir une histoire d'amour là aussi un peu hors du commun.
Et Cible émouvante aussi, où il joue un tueur en série un peu pareil, peu à la Peter Sellers, un peu à la, comme ça.
Oui, mais justement, peut-être qu'on pourrait faire correspondre le film à une troisième période dans la carrière de Rochefort, celle où il a été redécouvert par une jeune génération. Voilà, il aurait pu, je pense, si Terry Gilliam avait réussi à monter à temps son Don Quichotte, il aurait pu, Jean Rochefort, peut-être faire une troisième partie de carrière, je pense, assez étincelante, quoi. Mais bon, on connaît toutes les galères.
Il y a le documentaire Lost in La Mancha qui évidemment parle de ce film.
Ouais, et qui est très douloureux à regarder, ce documentaire.
Qui n'a jamais vu le jour, parce que c'est, rappelons-le, effectivement, c'est un film où il devait y avoir Jean Rochefort en Don Quichotte et Johnny Depp en Sancho Panza.
Oui, tout à fait.
Et du coup, c'est un film qui a connu des galères de production au début des années 2000 et qui n'a jamais vu le jour, et finalement qui verra le jour 15 ans, 20 ans plus tard.
Oui,
avec Adam Driver, mais Jean Rochefort ne sera malheureusement plus là.
Voilà, exactement. Et quand on voit le documentaire Lost in La Mancha, on a vraiment énormément de peine pour Jean Rochefort, parce que le film s'est aussi arrêté à cause des problèmes de dos terribles que Jean Rochefort a connus à ce moment-là, et qui font que ça a été la clou dans le cercueil, quoi, de ce film, quoi, qui s'est jamais fait, et qui aurait pu, je pense, redonner un nouveau souffle, un ultime dernier souffle à
Rochefort. Est-ce que tu as une recommandation, un petit film cher à ton cœur de Jean Rochefort que tu aimerais nous mettre en avant plus que les autres?
Je t'interromps, c'est pourquoi, parce qu'en fait je me rappelle juste d'un truc, d'une citation que je trouvais très intéressante.
Dis-moi tout.
Sur Un éléphant, ça trompe énormément, et pourquoi Yves Robert et Jean Rochefort et tous ces gens-là avaient décidé de faire ces films-là. C'est parce que justement, il était très important pour eux de faire un film de potes qui était un peu en réaction à la préemption du cinéma français par les mégastars Belmondo et Delon. Et eux voulaient retrouver justement Yves Robert et
la beauté des seconds couteaux, entre guillemets.
Exactement, un côté un peu authentique, et faire des films parce qu'ils se connaissaient tous, ils étaient très très potes dans la vie, et donc j'ai rajouté ça, je t'ai interrompu pour ça. Je me tais.
Ah, merci,
de toute façon,
Philippe,
tu vas couper tout ça au montage. Merci. Qu'ai-je fait, pourquoi
comme vous le voyez, on est toujours avec Philippe, vous êtes toujours en train d'écouter Les Lumières, et on est toujours dans cette année 76, et on va vers le troisième et dernier thème de notre émission. cette musique, disait Philippe, cette musique, ouais, évidemment.
Non, mais là, c'est fini, on arrête les conneries là.
C'est la musique de quoi, sérieux, du coup, Philippe, pour lancer ce troisième thème?
C'est la musique de Assaut de John Carpenter. Voilà, tu vois, j'aurais pu faire une vanne, j'aurais pu essayer de. Mais non, tu vois, j'ai même plus envie de plaisanter.
T'aurais
quand
pu
on parle
de traduire John Carpenter en français comme beaucoup de gens font.
Jean Charpentier.
Jean Charpentier.
Non, Assaut, bien sûr.
Assaut de John Carpenter, film avec Austin Stoker, Darwin Johnson, Laurie Zimmer, qui raconte. Qu'est-ce que ça raconte, Assaut de John Carpenter, toi qui le connais mieux que personne, ce
Assaut,
film.
Absolument, Assaut, donc, qui est sorti en 1976.
D'ailleurs, c'est Assaut sur le Central 13, alors, le titre long.
Le titre original est Assault on Precinct 13.
Okay.
Donc, Assaut sur le 13e commissariat, parce qu'un precinct, c'est un commissariat littéralement en anglais, qui est donc film sorti sous le titre Assaut en France. Très bien, très bon titre, très sobre. Et ça raconte le siège d'un commissariat en pleine nuit, un commissariat désaffecté, dans lequel sont retranchés une poignée de flics qui assuraient la transition du commissariat. Et ce commissariat va être assiégé par plusieurs gangs qui sont à la poursuite d'un homme qui a tué l'un d'entre eux quelques heures auparavant. Cet homme n'est pas du tout un bandit, c'est un père de famille qui s'est en fait vengé du meurtre de sa petite fille par l'un des membres de ce gang. Ouais. Et donc le gang, pour se venger à son tour, va poursuivre cet homme qui va se réfugier dans ce commissariat qui accueille au même moment des prisonniers qui sont en transit vers un autre pénitencier. Et pendant toute une nuit, flics et prisonniers vont s'unir pour résister aux assauts des nombreux gangs qui s'acharnent pour essayer de tuer l'homme qui s'est réfugié dans ce commissariat. C'est un film de siège.
C'est un film de siège, c'est un film de huis clos d'une certaine manière, même s'il y a beaucoup de scènes à l'extérieur. Ouais. Si l'histoire vous dit quelque chose, ce n'est pas anodin, puisque c'est une relecture du film Rio Bravo de Howard Hawks.
Très libre.
Très, très libre. Relecture très libre du Rio Bravo de Howard Hawks, sorti en 59. Film avec John Wayne et Dean Martin, etc., etc. Et c'est un film qui est donc le deuxième long métrage de John Carpenter, qui avait déjà fait un film qui s'appelait Dark Star en 1974, donc 2 ans auparavant. Et c'est un film, quand il sort, Assaut, le public aime pas trop, la critique aime pas trop. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu parles de Assaut, c'est quand même un film culte. C'est quand même un film qui est dans les mémoires. Et quand tu regardes la carrière de John Carpenter, c'est un film qui a démarré quelque chose. Avant de partir sur Assaut et en particulier, on va parler de John Carpenter. John Carpenter, pour les gens qui, effectivement, le connaissent pas forcément, c'est quelqu'un, bien sûr, d'extrêmement important. C'est un réalisateur qui a réalisé de nombreux films très connus, comme Halloween, New York 97, The Thing, Christine, Starman, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, Invasion Los Angeles. Bref, c'est une. On n'utilise pas souvent le mot comme ça, mais ça reste, on va dire, dans l'imaginaire collectif, une légende du cinéma américain.
Allez, disons-le.
Disons-le. Et toi, tu m'as dit effectivement qu'on préparait l'émission. Ah, j'ai absolument envie qu'on parle de Assaut de John Carpenter. Pourquoi donc, Philippe? C'est quoi ton histoire intime avec John Carpenter, Philippe? Raconte-nous.
Il y a des choses que je ne peux pas révéler pour la décence publique, bien sûr.
Remets ton t-shirt.
Non, bon, c'est la raison. Assaut est la raison pour laquelle je voulais.
Je suis là d'ailleurs, sinon tu te serais barré.
C'est barré cette émission de merde. Non, je voulais qu'on parle de 76, principalement pour Assaut, hein, faut pas se mentir.
Ah oui, d'accord.
Et Assaut, c'est un film que j'ai découvert, je peux te dire précisément, en juin 1985, lors de sa diffusion sur Canal+. Donc oui. C'était un soir d'été, il faisait très chaud, je m'en rappelle. Je venais d'apprendre que je redoublais ma seconde.
Ouf.
Et je vois ce film. Alors, je connaissais déjà le nom de John Carpenter parce que j'avais vu Halloween un an avant en VHS, qui m'avait complètement retourné le cerveau. J'avais vu à l'âge de 10 ans New York 1997 quand le film était sorti en salle, mais sans réaliser que c'était John Carpenter. Mais déjà, New York 97 m'avait complètement ébloui, fasciné. La musique m'obsédait. Quoi. C'est ça la force du cinéma de Carpenter dans ses meilleurs films. C'est la puissance de la forme de ses films, que ce soit les sons, les musiques, la photo.
Il fait les musiques de ses films, d'ailleurs. John Carpenter, c'est
de la plupart de ses films.
Ouais, c'est lui qui fait la musique, évidemment.
Et c'est encore le cas d'Assaut.
C'est un musicien.
85, je vois Assaut sur Canal+. Et là, pareil, tout comme quand j'ai vu New York 97 et Halloween, là, je suis éberlué. Je suis en état de sidération devant ce film. J'ai un coup de foudre, mais sans condition face à ce film, face à son image, sa photo qui est magnifique. Le film est filmé en format cinémascope, en panavision anamorphique. Je suis complètement happé par cette histoire de fraternisation, de fraternité entre un flic noir joué par Austin Stoker et ce condamné à mort blanc joué par Darwin Johnston, bon, qui sont des comédiens à l'époque obscurs, hein, personne ne les connaît, ou en tout cas dans le grand public. Et je suis fasciné par la musique.
C'est beau quand ça arrive, ça, ce coup de foudre là. C'est beau quand ça nous arrive. Hein.
Ah, c'est merveilleux.
C'est le meilleur sentiment du monde.
C'est merveilleux et c'est un film très très riche à saut, on va peut-être développer tout à l'heure. Mais voilà, moi j'ai été immédiatement obsédé par ce film. J'ai vu quasiment à l'époque Canal+, quand Canal+ diffusait des films. Donc on est en 85, hein, donc Canal+ vient, il faut aussi se mettre dans le contexte d'une absence totale. On est encore sur juste 4 chaînes, Canal+ inclus. Canal+ qui est né l'année d'avant. Moi j'ai eu à peu près une quinzaine d'années à l'époque, donc c'est vraiment l'âge où ta cinéphilie commence à vraiment à être consciente.
Il y a les VHS, il y a des choses comme ça, mais voilà, ça reste encore effectivement par des bribes. Tu vois le cinéma américain par des bribes, voilà, Starfix, des choses comme ça.
Exactement. Voilà, on n'a pas le câble, on n'a pas les chaînes câblées, on n'a que 4 chaînes, pas d'internet.
Alors accrochez-vous, on n'a pas internet encore à l'époque.
Et donc je vais être obsédé par ce film au point que je vais regarder les six multidiffusions, rediffusions du film sur Canal+. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, quand Canal+ diffusait un film, il était rediffusé 6 fois au total. Et voilà, après, je suis obsédé par ce film. J'essaye de trouver l'affiche. J'écris I Love Asso partout sur mes cahiers de texte. Enfin, c'était vraiment une obsession, quoi. Ouais. Et mon amour pour ce film n'est jamais redescendu depuis. C'est l'un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je sais pas, 40 fois, 50 fois, je sais plus. Et à chaque fois que je le vois, c'est le même émerveillement. Mmh. J'ai eu l'occasion depuis de le revoir en salle, dans sa version intégrale d'ailleurs, parce que le montage que Canal+ avait diffusé était le montage expurgé de ce fameux plan infamant où la petite fille, la gamine qui est assassinée par le gang au début du film, il y a un plan donc qui montre la balle traverse le cornet de glace de la petite, et il y a vraiment une explosion de la glace avec le sang mêlé de la fille. Et c'est un plan encore aujourd'hui qui est extrêmement choquant.
Donc c'est une enfant qui se fait tuer à l'écran et qu'on voit se prendre une balle à l'écran.
On voit le plan de la mort de l'enfant. Ouais. Et c'est extrêmement choquant. Et donc, voilà, j'ai eu un amour inconditionnel pour ce film. Je l'ai toujours. Je reste toujours convaincu que c'est à ce jour le meilleur film de John Carpenter pour tout un tas de raisons. Et en effet, comme tu l'as dit, quand le film est sorti aux États-Unis, il a été accueilli avec une certaine indifférence. Ça donnait un indice d'ailleurs du rapport qui allait être celui
conflictuel entre
Carpenter et l'Amérique. Et c'est la Grande-Bretagne qui va faire vraiment un triomphe au film, qui va être projeté quelques mois après, dans le courant de l'année 1977, parce que le film sort en décembre 76 aux États-Unis, et il va être projeté dans le courant de l'année 77 au London Film Festival. Contrairement aux États-Unis, le public britannique est hyper enthousiaste en voyant ce film. Le film a des standing ovations, il va très bien marcher en salle. En France, le film va avoir un accueil, je crois, assez anodin finalement. Donc le film cartonne en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, il se plante et il va être redécouvert évidemment par des générations entières de cinéphiles, jusqu'à être considéré à juste titre aujourd'hui comme un des grands chefs-d'œuvre d'action ou de genre des années 70. Malgré tout, quand on demande aux gens, même aux fans de Carpenter, quel est leur Carpenter préféré, je vois pas souvent.
Il sort pas beaucoup. Ouais.
Non, on voit souvent The Thing ou Halloween ou.
Bien sûr.
Tu vois, mais assez peu Asso, et je trouve ça assez injuste.
Film qui est Asso, hein, qui a connu un remake en 2005 par Jean-François Richer.
Ouais.
Remake avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne. Voilà, on ne va pas en parler. Ouais. On voit que tu es animé par John Carpenter, Philippe, et ça fait plaisir à voir. Pour les gens qui ne connaîtraient pas John Carpenter, c'est quoi le cinéma de John Carpenter ? Qu'est-ce qu'il caractérise ? Qu'est-ce qui raconte le cinéma de John Carpenter ?
Alors, John Carpenter, c'est avant tout un cinéma de l'efficacité avec peu de moyens. C'est un cinéma de la sobriété, c'est un cinéma du cinémascope. Voilà. Parce que en dehors de Starman, si je ne m'abuse, Carpenter a tourné tous ses films en cinémascope. Oui, ce sont des films de pur cinéma, où la forme est très importante, où il n'y a pas de développement psychologique
à outrance.
On a une histoire qui part d'un point A à un point B, des flics qui doivent défendre un commissariat. C'est une communauté qui doit se défendre d'un tueur en série dans Halloween. C'est un condamné à mort qui est récupéré par le gouvernement américain pour aller sauver le président américain qui est tombé avec son avion dans une Manhattan transformée en camp retranché.
C'est des films assez violents et assez durs quand même, les films de Carpenter. Il n'est pas tendre avec, l'Amérique, il n'est pas tendre avec la société américaine.
Non, mais ça, c'est apparu vraiment au fil de ces films. Carpenter a souvent dit qu'il n'aimait pas trop qu'on politise à outrance le contenu de ses films. Le cinéma de John Carpenter, c'est avant tout vraiment un cinéma humble, de divertissement, un cinéma de genre, tout simplement. Pas un cinéma qui prend le genre pour dire des choses politiques. même si il en effet
il parle, c'est des questions sociales, t'as des, un peu des dilemmes kafkaïens, t'as des, c'est des... Moi ce qui m'a frappé dans le Carpenter, c'est que Carpenter, c'est quelqu'un qui fait aussi un cinéma du microcosme. C'est un cinéma où du mini-monde, c'est un cinéma de la mini-société. Quand l'asso, c'est le commissariat est une mini-société. Dans The Thing, ce mini-groupe isolé, c'est une société. Dans New York 97, New York est une ville en soi, avec du coup des gens qui racontent quelque chose. Et du coup, il utilise toujours cette... Même dans The Fog, il y a toujours cette idée de ce village coupé par du monde isolé par le brouillard, et du coup, qui doit, on va dire, régler ses problèmes en interne. Et du coup, ça raconte quelque chose sur l'Amérique, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est. Donc, j'avais cette idée de Carpenter, cinéaste un peu du microcosme.
Oui, c'est une très bonne analogie sur de constater en effet que l'échelle des films de Carpenter est souvent assez resserrée, claustrophobique. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a en effet une reconstitution comme tu dis, d'une micro-société qui est une métaphore d'idées que Carpenter veut faire passer.
Mais tu dis que ça, c'est secondaire dans le cinéma de Carpenter, oui, parce qu'il n'est pas intéressé particulièrement par ça.
Je suis pas dans sa tête. Je suis pas suffisamment exégète pour savoir quelle conscience politique il a vraiment mis dans ses films. Mais c'est vrai que à travers Asso, qui est en même temps un film très classique, qui va à l'encontre d'un certain cinéma d'auteur expérimental qui était très à la mode dans l'Amérique des années 70. Asso, qui est un film très classique, qui est vraiment le descendant direct de Howard Hawks, mais aussi de Robert Aldrich, de John Ford même aussi quelque part. Donc c'est un film très classique, Asso, et qui est une histoire donc classique de méchants contre des gentils. À travers ça, en effet, Carpenter parle d'une certaine Amérique de l'époque. C'est clairement pas un hasard s'il donne le rôle du flic à un Afro-Américain. Et donc oui, à travers Asso, il dit des choses d'une certaine Amérique de l'époque, avec toutes ses angoisses sécuritaires, mais aussi il y a cette espèce de, il y a ce, pas un rêve, mais une envie de voir justement les deux faces de l'Amérique fraterniser ensemble face à un péril. Les deux détenus, d'ailleurs, il y a un noir, il y a un blanc. Les noirs et les blancs dans le commissariat vont s'associer pour sauver un homme. Parce que c'est ça, vraiment. Il y a une dimension morale très importante. Et je trouve magnifique et presque bouleversante l'amitié non dite qui se noue dans l'épreuve entre le personnage de Ethan Bishop, joué par un Afro-Américain, et le personnage de condamné à mort, Napoléon Wilson, qui est joué par un blanc.
Un cinéma qui est optimiste, tu dirais. Un cinéma qui...
Presque optimiste,
ou en tout cas qui veut dépeindre une belle facette de l'être humain malgré tout.
Ouais, même s'il
est assez dur.
Tout à fait. Mais tout ça est derrière vraiment aussi la volonté quand même de distraire et de livrer un thriller assez percutant. Après, le cinéma de Carpenter, il va vraiment évoluer en effet vers plus de politique.
Très divers, très différent.
Le symbole de ça, vraiment son film le plus politique, évidemment, c'est Invasion Los Angeles, qui est sorti en 1988, où là vraiment Carpenter est dans un film très anti-année Reagan. On sent que c'est un cinéaste complètement en colère, qui est à la fois en colère contre les grands studios américains qui, selon lui, ont saboté la sortie des aventures de Jack Burton en 86. Et donc, Carpenter en veut énormément à l'époque aux grands studios. Et donc, Invasion Los Angeles, c'est un film qui est à la fois anti-studio, anti-Reagan, et c'est sans doute l'un de ses films les plus politiques.
Ouais.
Donc, il est passé vraiment à gauche, hein, Carpenter. Mais, globalement, je trouve que la dimension politique et sociétale qui est tout à fait, hein, elle passe quand même derrière l'envie d'abord de provoquer des émotions chez les gens. Chez les gens qui vont voir ces films, soit de l'effroi, soit de l'émotion, comme dans Starman, ou de l'excitation lors des scènes d'action qu'il a su mettre en scène avec un immense talent.
Ça, on l'a dit effectivement au début, Asso est son second film, puisqu'il a réalisé donc Dark Star en 1974, qui est un film de, comment on pourrait le décrire, de science-fiction, de fin d'études, avec très très peu de moyens, une espèce de proto-alien, d'ailleurs écrit par effectivement le... Dan O'Bannon, le gars qui va écrire plus tard Alien, même si c'est son second film, Asso est quand même considéré comme un peu l'acte de naissance du réalisateur, le début de sa carrière. Et du coup, moi, ça m'a quand même posé la question de savoir quand est-ce que naît le cinéma d'un auteur, qu'est-ce qui signe l'acte de naissance d'un cinéma et qu'est-ce qui signe l'acte de naissance de Carpenter, par exemple.
C'est
délicat, c'est des gimmicks, c'est des formes, c'est des propos, c'est peut-être tout le temps rétroactif de toute manière. C'est peut-être compliqué de le voir quand t'as la tête dans le guidon.
Non, mais c'est une vraie... C'est excellente chose.
Est-ce que tu dirais qu'Asso, c'est le premier film de Carpenter vraiment où tu considérais Dark Star comme un élément important.
Non, pas du tout. Quand on voit Dark Star, c'est vraiment un brouillon. D'accord, Dark Star, okay. qui a des qualités, mais ouais. Je veux dire, c'est un film qui a été réalisé tellement avec... Asso a été réalisé pour, je crois, un budget de 100 000 $ de l'époque, oui. Et tourné en à peine une vingtaine de jours. Donc c'est déjà un micro-budget. Dark Star, avant ça, c'est vraiment misérable. C'est vraiment un film de fin d'études, avec des thématiques très intéressantes, mais c'est vraiment Asso qui pose les canons de l'ADN du cinéma de Carpenter. Tu l'as dit tout à l'heure, un huis clos, un lieu resserré, une unité de lieu qu'on va retrouver dans beaucoup de ses autres films. Le village de Fogg.
L'entre de la folie aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a le village dans l'entre de la folie.
Tout à fait, dont on ne peut pas s'échapper.
Donc tu as déjà beaucoup du cinéma de Carpenter dans Asso.
La prédominance de la musique électronique. Encore une fois, le générique d'Asso, il a depuis... c'est un générique totalement culte chez tous les amateurs de musique électronique, hein, et tous les grands professionnels de la musique électronique. La patte visuelle de Carpenter, alors même si à l'époque son chef opérateur n'est pas encore Dean Cundey, que Carpenter va connaître à l'occasion de Halloween, je crois. Donc oui, Asso, c'est la musique, le huis clos, la grande élégance du cinémascope, la cinématographie du cinémascope et de l'anamorphique, qui va être là aussi la grande signature visuelle des films de Carpenter, et puis des anti-héros finalement. Oui. Voilà, et puis une certaine noirceur qui n'exclut pas l'optimisme. Donc oui, on a là vraiment, c'est l'acte de naissance de Carpenter, vraiment indubitablement. Et pour moi, c'est, encore une fois, c'est vraiment le meilleur film qu'il a fait.
Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu de voir ou de revoir Asso de John Carpenter, on ne sait plus quoi faire.
Bah, moi, je me casse.
Voilà, finalement, qu'est-ce qu'il vous faut ? Oh là là,
des goûts pourris.
Et voilà, donc revoyez Asso, voyez les films de John Carpenter. C'est peut-être effectivement la meilleure chose qu'on peut conseiller aux gens. Oui. Ils sont riches et passionnants et intéressants, et John Carpenter mérite peut-être effectivement
de cinéma, ouais. De formel, hein, vraiment. Ben voilà.
Donc voilà,
sur l'usage de la caméra, de comment filmer un lieu resserré.
Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces films-là, dans son cinéma. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission. On est arrivé doucement à la fin de notre émission, mais on ne va pas se quitter tout de suite, bien sûr.
Non.
On vous laisse comme d'habitude. On va passer comme d'habitude par un petit moment de recommandation des autres films intéressants à voir, des coups de cœur à voir dans cette année 1976. C'est parti. Donc nous voilà, oui. Comme d'habitude, donc nous voilà comme d'habitude dans ce petit moment final de recommandation pour évoquer nos coups de cœur, les films qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission et nos autres coups de cœur de l'année 1976. Toi Philippe, tu voulais nous mettre en avant, nous parler d'un film en particulier que tu aurais envie de conseiller en 76. Quel est-il? Ouais. Ah, tu en as moult, tu en as plein.
Bah ouais, il y en a tellement.
Mais s'il y en a un ou deux que tu aimerais conseiller...
Et là je t'en balance trois, bim.
Oh là là, à nos auditeurs.
Très bon. L'évidence, tu l'as cité tout à l'heure, Taxi Driver de Martin Scorsese, qui est pour moi l'un des meilleurs films de Scorsese, Palme d'Or à Cannes.
Bien sûr.
Écrit par Paul Schrader. La révélation de Jodie Foster, un rôle complètement dément de conducteur de taxi ancien du Vietnam qui est devenu complètement psychopathe, joué par Robert De Niro. Un final ahurissant de violence. La musique de Bernard Herrmann.
Formidable.
C'est un chef-d'œuvre.
Voilà. Bien sûr.
Il faut le voir.
C'est bien de le rappeler toujours, de revoir ça, parce que c'est toujours bien effectivement de rappeler que des films Taxi Driver, comme ça, c'est essentiel.
Exactement. Et je ne cesserai de penser que Martin Scorsese n'a jamais été aussi meilleur que lorsqu'il tournait avec Robert De Niro, plutôt qu'avec les grosses meringues qu'il a tournées avec Leonardo DiCaprio.
Ça dénonce.
Ah, ça balance.
Non,
ah,
moi, ça balance.
Choses,
ah,
moi,
je vois,
choses,
je vois ça.
J'ai un gros déglingo, moi. Network, voilà, là aussi.
On l'a cité, effectivement, Network. Alors, c'est quoi en français? C'est Network, main basse sur la télé, c'est
sur
ça?
Sur la télé, oui, c'est ça.
De Ciné Le Met. Donc, c'est quoi Network, rapidement?
Ça commence par une scène choc qui est un présentateur du JT qui est un peu âgé, présentateur du JT aux États-Unis, donc sur une grande chaîne qui pourrait être, qui est une concurrente de NBC, CBS, etc. Donc Network,
M6, qui pourrait
c'est un network en fait. Voilà, Network aux États-Unis, c'est les grandes chaînes gratuites, privées. Mm-hmm. Et donc le film commence. Ce présentateur JT annonce que ce qu'il vient d'apprendre, qu'il va être viré parce que son journal fait moins d'audience et qu'il commence à être un peu vieillissant. Et il annonce en direct qu'il va se suicider. Voilà. Ouais. Et donc à partir de là, il déclenche un début de phénomène médiatique qu'il ne va pas maîtriser. Il va y avoir un attachement du public pour lui. Une fois l'annonce de son suicide, ce présentateur du JT va devenir un phénomène de société. Le public va prendre fait et cause pour lui. Il va devenir une sorte de gourou que sa chaîne va... Bon, parce qu'il ne va pas suicider finalement. Les patrons de sa chaîne réalise que c'est devient une bombe à audience potentielle, donc il lui confie une rubrique spéciale. Mais en fait, Network, c'est une immense critique de cette course à l'audience de l'Amérique.
Un peu absurde.
Mais il n'y a pas que ça. C'est pas juste une critique de la course à l'audience dans les médias américains de l'époque. C'est aussi un regard sur l'obsession de la célébrité, sur l'obsession de l'argent, sur comment la télé fabrique des gourous, tout ça finalement au service des annonceurs. On est en 1976, donc à une époque où la télé, c'est quand même encore le diable aux États-Unis, aux yeux des cinéastes. La télé, c'est vraiment le symbole de l'abrutissement de masse, qui est incroyable quand on revoit Network aujourd'hui. Bon, évidemment, le film est le reflet de son époque, mais il dit aussi énormément de choses sur ce qu'on voit, nous, en France, aujourd'hui, dans les dérives de la course à l'audience.
C'est encore très d'actualité, finalement.
C'est incroyablement d'actualité. Comment le capital, comment les grandes sociétés récupèrent très cyniquement les causes politiques. Le personnage du présentateur du JT, moi, dans la façon dont il se galvanise lui-même de l'influence qu'il a sur les foules, moi, j'avais l'impression de voir Hanouna, quoi, tu vois, chez nous aujourd'hui.
Ouais, donc c'est un système qui broie tout le monde et tout le monde. Quoi.
Mais il faut absolument voir Network aujourd'hui. C'est fascinant, sa pertinence encore aujourd'hui.
Donc Taxi Driver et Network,
voilà.
C'est une grande année. On aimerait effectivement pouvoir citer plein de films. On en a parlé au début de l'émission. Il y avait Carrie, effectivement, de Brian De Palma, oui, il y avait La Malédiction, il y avait plein de films à voir. Cette année 76 est assez bien garnie, véritablement. Merci beaucoup pour ces recommandations, Philippe. De mon côté, moi, je vais en profiter effectivement pour passer ma petite recommandation, mon petit coup de cœur. Ce sera 1900 de Bernardo Bertolucci, que j'ai évoqué en début d'émission. Donc un film avec Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, qui nous raconte les vies parallèles de deux garçons nés le même jour dans une grande propriété terrienne en Italie au début du XXe siècle. Donc d'un côté, on a Alfredo, joué par De Niro, fils du propriétaire, qui lui connaîtra une vie d'opulence, entachée par la montée du fascisme en Italie. Et de l'autre, on a Olmo, joué par Depardieu, qui lui est fils de paysan et qui choisira plutôt du coup le camp des travailleurs, le camp du socialisme, pour vaincre la dictature. Du coup, on a ces deux portraits d'hommes à travers le XXe siècle italien, et comment cette amitié et cette rivalité, et bref, ces deux portraits particuliers s'entrechoquent. Alors Bertolucci, c'est le cinéaste derrière Le Dernier Tango à Paris, derrière Le Dernier Empereur, derrière Un Thé au Sahara, et du coup, il arrive avec 1900 à faire un film au gros budget, un film coproduction européenne assez ambitieuse, qui coûte très très cher à l'époque. C'est un film qui est produit à la fois par la France, par l'Italie, par l'Allemagne, qui est distribué d'abord par Paramount, puis finalement par la Fox. Et c'est une fresque, pour vous donner une idée, c'est un film qui fait plus de 5 heures. C'est un film qui est assez imposant, qui a été du coup même sorti en deux parties, une partie 1, une partie 2, parce que c'était un film assez imposant. Donc deux parties comme ça de 2h30 et quelques, identifié comme une grande fresque. Humaine et historique, puisque elle mène comme ça l'histoire générale de l'Italie et les histoires intimes de tous ces personnages-là, de ces petites histoires enchevêtrées dans la grande histoire. Finalement, il y a beaucoup de scènes où tu sens le poids du souvenir, tu sens le poids du... Il y a tellement d'authenticité, parfois tu as des séquences où ce qui ne font pas forcément avancer l'histoire, mais des séquences où tu vois le souvenir à l'écran, tu vois l'odeur du pain, tu vois la lumière qui arrive dans une pièce, tu vois
photo de Storaro, Vittorio Storaro.
Exactement.
Futur chef-op de Coppola sur Apocalypse Now.
Exactement. Et tu ressens ce côté film-mémoire où on sent que c'est quelqu'un qui lui a raconté cette scène-là et il l'a retranscrit comme ça à l'image, parce qu'il y a un toucher, il y a un ressenti, il y a une émotion comme ça qui sue de l'image. C'est assez saisissant. Et de l'autre côté, ça, ces grandes scènes comme ça avec énormément de figurants, des choses comme ça avec un certain lyrisme, d'une certaine beauté folle. Alors, sur 5 heures et quelques, je vous avoue qu'il y a des séquences qui sont quand même longuettes, il y a quand même des longueurs, et je vous avoue qu'il y a certains moments dans le film, j'ai décroché, je vous l'avoue, mais on sort quand même malgré tout, malgré ces longueurs, malgré ces moments un peu plus lâches, où du coup, oui, Bertolucci s'abandonne un peu à la rêverie et abandonne un peu son histoire en passant. Malgré tout ça, ça reste un immense morceau de cinéma, 1900 de Bernardo Bertolucci, avec du coup De Niro et Depardieu. Donc ça, c'est assez drôle de voir les deux d'ailleurs jouer ensemble, parce que c'est deux acteurs qui sont à l'époque tout jeunes, en 76, ils sont tout jeunes, et tu les vois jouer, ils ont des scènes très intimes, et c'est assez formidable
une
de
scène
les...
notamment, oui.
Ouais.
Voilà, très intime.
Exactement. Et c'est assez fascinant de les voir, parce que c'est mine de rien un morceau de cinéma que tu vois à l'écran. Donc c'est assez fou. Donc voilà, c'est ma petite recommandation, et ça me permet aussi de placer que 1900 de Bertolucci a eu le droit récemment à une belle édition, à une très belle édition chez nos amis de Wildside.
Ah oui, c'est ça, Wildside,
une version intégrale restaurée dans une très très belle édition, avec notamment dans l'édition, dans ce très beau coffret 1900 de Wildside, le dernier interview de Bertolucci, qui est donc mort en 2018. Et donc voilà, donc c'est, si vous voulez découvrir le film 1900, n'hésitez pas à aller voir du côté de Wildside. Et oui, voilà, c'est un grand morceau de cinéma qui mérite effectivement qu'on se pose dessus.
Et qui était très radical aussi.
Et ça, c'était beau.
Il y a des scènes extrêmement radicales.
Et c'est extrêmement violent et c'est extrêmement, voilà, comme tu l'as dit, radical. Donc c'est un film assez saisissant. Voilà, c'est ma petite recommandation. Je vais m'arrêter là.
C'est validé.
C'est validé, tout à fait.
C'est validé, mon vieux.
Bref, voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1976. J'aimerais avant tout remercier mon invité, bien sûr, Philippe Gage. Merci, Philippe, d'avoir accepté l'invitation.
Je t'en prie. C'était vraiment un plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop nébuleux.
Mais voilà, pas du quoi. Tout, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir.
Merci,
merci,
Timo.
Merci également aux partenaires de l'émission.
Jamais dit, je t'aime, jamais.
Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris.
Je les aime aussi, bien sûr.
Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Je rappelle encore une fois que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site Utip à l'adresse utip.io/AnnéeLumière. Ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous !